Gloire, honneur te soient rendus. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu es pour nous. Oh, merci Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs à l'écoute de ta voix une fois encore. Tu veux encore nous faire du bien, nous guérir, nous consoler, nous relever. Oh, nous sauver. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Gloire à ton nom. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. À la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché. Jamais nous ne devons oublier ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Alléluia. L'apôtre Paul disait, « Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. » Pour lui, le Christ crucifié n'est pas resté sur la croix. Il est mort sur cette croix à notre place. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. C'était la preuve que Dieu, son Père, approuvait sa mort sur la croix et qu'il est désormais le Sauveur vivant et puissant qui veut sauver, guérir et délivrer. Alléluia! Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à son nom. Savez-vous qu'aux yeux de Dieu, ça fait 2 jours que Jésus est mort et ressuscité? Comment ça, c'est la première fois que j'entends ça? Comment ça se fait? Mais ça fait 2000 ans, voyons. J'ai bien dit aux yeux de Dieu. Parce qu'aux yeux des hommes, on a l'impression que ça fait 10 000 ans. 10 millions d'années. Quand on entend parler de Jésus, maintenant on a l'impression, ouh, ça c'est de l'histoire ancienne, ça fait 10 millions d'années presque. Non, non, mais aux yeux de Dieu, j'ai bien dit, ça fait 2 jours, pourquoi je vous dis cela? La Bible dit qu'un jour, aux yeux de Dieu, est comme 1 000 ans. Alors, ça fait combien? 2 000 ans à peu près qu'il a été crucifié. Autrement dit, aux yeux de Dieu, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours qu'il est mort et ressuscité. Il y a 2 jours, il guérissait des malades. Il ouvrait les yeux des aveugles. Et il y en a qui veulent nous faire croire que Jésus a changé. Vous croyez qu'il change tous les 2 jours, le Seigneur? Je connais des hommes qui changent tous les 2 jours. Je connais des personnes qui changent tous les 2 jours. On veut nous faire croire que Jésus change. Jésus n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu nous dit que Dieu, je suis l'éternel, je ne change pas. Mais les hommes changent, oui, les hommes. On change vite. On dit un jour il guérit, le lendemain il ne guérit pas. Et il y a tant de choses sur le Seigneur, mais le Seigneur est le même. Ce qu'il a fait dans le passé, il veut le faire aujourd'hui. Alléluia. Combien il est merveilleux, ce Seigneur. Il était plein de compassion pour les malades. Il y a 2 jours, il le sera encore aujourd'hui. Alléluia. Il est le même, il est le même. Attendons-nous à lui encore cet après-midi. Il est là. Nous allons nous laisser conduire par son amour, par son esprit et sa parole. Attendons-nous à lui. Il est ressuscité, et s'il est ressuscité, il est au milieu de nous cet après-midi. Elle confirmera sa parole par les miracles qui l'accompagnent pour prouver que sa parole est la vérité. Voilà pourquoi il guérit les malades, pour prouver que sa parole est la vérité. Pourquoi encore guérit-il les malades? Pour prouver qu'il est ressuscité. N'est-ce pas vrai? S'il ne guérit pas les malades, on ne peut pas savoir que Jésus est vivant. Premièrement, pour confirmer sa parole. Deuxièmement, pour prouver qu'il est ressuscité. Troisièmement, parce qu'il pour prouver qu'il est capable de pardonner vos péchés. Lequel est-il plus aisé de dire? Prends ton lit ou marche? Ou alors, tes péchés sont pardonnés? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, dit-il au paralytique, lève-toi et marche. La guérison des malades a donc pour but aussi de montrer que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Il est le seul. Alléluia. Et il veut pardonner tes péchés. Le problème de l'homme est un problème spirituel. Spirituel. L'homme a besoin d'être pardonné. Jésus seul est le sauveur. Il veut le faire cet après-midi. Gloire à son nom. Alléluia. Nous allons donc prendre du temps pour prier pour les malades. Et nous nous attendrons au Seigneur à ce qu'il agisse au milieu de nous. Mais avant cela, nous allons conclure momentanément notre étude sur la famille. Et comme je l'ai annoncé ce matin, nous allons parler tout spécialement de l'éducation des enfants en donnant comme titre à notre message les 10 commandements pour les parents. 10 commandements pour les parents en ce qui concerne l'éducation des enfants. 10 commandements qui nous donneront 10 pensées précises sur la façon d'éduquer correctement nos enfants. Nous en avons besoin, n'est-ce pas vrai? Plus que jamais, nous avons besoin de cela. Lisons, si vous le voulez, 2 versets, Colossiens 3, 21. Colossiens 3, 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Colossiens 3, 21. Éphésiens 6, 4. Éphésiens 6, 4. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Si vous voulez un passage dans les Proverbes, Proverbes 22, 6. Proverbes 22, 6. Proverbes 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Proverbes 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Écoutez, là, c'est un passage très important. Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est tout jeune que nous devons enseigner nos enfants. Et maintenant, il y a certains parents qui ont des drôles d'idées et qui disent ceci. Mais moi, je ne veux pas influencer mes enfants. J'attends qu'ils aient l'âge adulte, ils choisiront eux-mêmes. Je l'ai entendu, cela. Comme pour dire, on ne veut pas influencer nos enfants. Ils doivent choisir eux-mêmes. D'accord, ils doivent choisir eux-mêmes. Mais écoutez-moi bien. Ils choisissent uniquement s'ils ont été enseignés dans ces voies-là. Mais ils ne peuvent pas choisir s'ils n'ont pas été enseignés. C'est là l'erreur de beaucoup de parents. Comment veux-tu que ton enfant choisisse la voie quand tu ne lui as pas montré le chemin? C'est une folie. Et qu'est-ce qui se passe si tu ne lui as pas enseigné le droit chemin? Le mauvais chemin, il lui a été enseigné automatiquement. Alors il choisit quoi? Le mauvais chemin, parce que c'est ce que tu lui as enseigné. C'est donc une folie de croire qu'il faut attendre que l'enfant grandisse, soi-disant, pour choisir. Il ne peut pas choisir sur quelque chose dont il est ignorant. Vous êtes d'accord avec moi? Comment veux-tu que ton enfant choisisse s'il ne sait pas le bon chemin? Du faux chemin. C'est donc enfant qu'il faut le faire. Enfant dès le jeune âge. Les parents ont la responsabilité d'enseigner leurs enfants. Premier commandement, ce n'est pas le décalogue, mais c'est le décalogue de la famille, si vous voulez. Mais ce sont des commandements qui libèrent. Jésus a dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Et les paroles du Seigneur sont merveilleuses. Premier commandement pour les parents. Tu commenceras d'abord avec toi-même. Autrement dit, tu donneras d'abord l'exemple. Voilà. Dans l'éducation des enfants, on commence d'abord avec soi-même. Il y a là une vérité très importante avec les enfants que beaucoup de parents ignorent. Ils ne veulent pas comprendre cela. Il y a une pensée très importante dans l'éducation des enfants qui est celle-ci. Un gramme d'exemple vaut mieux qu'une tonne de conseils. Je trouve que c'est intéressant. Et pour un enfant, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui parlent beaucoup, mais ils sont loin de donner le bon exemple. Mais vous dites, mais je ne comprends pas. J'ai tout dit à mes enfants. Et je ne comprends pas, ils sont rebelles, j'ai tout dit. Oh, si vous savez, ben alors là, je leur en ai dit, hein. Alors, je suis quand même en ordre. C'est bien de dire. Mais est-ce que tu vis ce que tu dis? Je lisais avant de venir dans un magazine, un petit gamin à l'école, tout à coup, il appelle son camarade avec un gros mot terrible. Le maître est là, le reprend en disant, mais veux-tu te taire? On ne dit pas les choses comme ça. L'enfant, tout étonné, a dit, mais monsieur, maître, mais à la maison, mais ma maman dit toujours ça. Mais ma maman dit toujours ça à la maison. L'enfant a été étonné, mais dit, comment c'est normal? Mes parents le disent, ma maman le dit, alors je le dis, mais pourquoi est-ce que tu me reprends? C'est pas juste que tu me reprennes. Et en effet, bien souvent les enfants ne comprennent plus. Si nous voulons avoir du succès dans l'éducation des enfants, il faut d'abord être un bon exemple. C'est comme l'autre, j'ai entendu du soir, qui voulait empêcher son enfant de fumer. Tout à un jour, il voit son enfant en train de fumer. Je lui dis, viens voir ici, toi, un petit peu. Où est-ce que tu as appris à fumer, toi? Tu ne recommences pas, tu as compris? Et 5 minutes après, il sortait une cigarette de sa poche, le papa, et il fumait. Il empêchait son fils de fumer. Et lui, il fumait. Comment voulez-vous que l'enfant obéisse? Dans une telle situation, l'enfant se rebelle. Ah, il se tait d'abord parce qu'il est enfant, n'est-ce pas? Mais le jour arrivera où il vous dira les 4 vérités. N'ayez pas peur. Il ne peut pas les dire maintenant, mais il les dira. Il les dira. Il les dira. Tu dois d'abord commencer par toi-même. D'ailleurs, éduquer un enfant, le mot éduquer, c'est plus qu'enseigner son enfant. Instruire l'enfant. Le verbe instruire qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est un verbe, c'est pas enseigner. Enseigner, c'est une chose. Enseigner, c'est dire à quelqu'un, fais comme je dis. Fais comme je dis. Mais éduquer son enfant, c'est fais comme je fais. Voilà l'éducation. Beaucoup ont enseigné leurs enfants dans les voies du Seigneur, mais ils ne les ont pas instruits. Instruire, c'est dire à l'enfant, fais comme je fais. Et vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est le jour et la nuit. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses à l'enfant sans les mettre en pratique. Combien de parents disent aux enfants, allez à l'église, c'est très bien, allez-y, allez-y. Mais eux, on va au jeu de boules, on va jouer aux boules, on va à la pêche. Tu vas à l'église, hein? Et tu seras gentil là-bas. Tu obéiras bien à la monitrice. Tu écouteras bien. Tu as compris? Au revoir, hein? Obéis. Et tu viens, papa? Mais comment? Je dois aller à la pêche, moi. Ah bon? Ah, tu dois aller à la pêche? Ah bon? Ah, tu vas pêcher? Et puis moi, je vais à l'église? Ouais, ouais, oui. Et tu seras un bon chrétien, hein? Ah bon? Oui? Bon, je vais tâcher. Et toi, tu vas? Moi, je vais pêcher. comment voulez-vous que ça marche? Tôt ou tard, l'enfant va se dire, eh bien, mes parents, ce sont des hypocrites. Et j'ai lu dans des statistiques qu'un des reproches majeurs que les enfants et les jeunes font à leurs parents, c'est l'hypocrisie. Mes parents ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils ne vivent pas ce qu'ils disent, c'est des baratineurs, des beaux discoureurs. Mais quant à faire, quant à vivre ce qu'ils disent, non. Et un enfant rejette cela, n'est-ce pas? Il rejette. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui ne peut pas accepter. Comme d'ailleurs, nous ne pouvons pas accepter l'hypocrisie dans la vie de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Hypocrite, un hypocrite, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas accepter. Mais bien souvent, on reproche aux autres leur hypocrisie, alors qu'on l'est bien nous-mêmes, bien souvent nous-mêmes. Si tu veux avoir une efficacité dans l'éducation des enfants, commence à vivre ce que tu dis. Ceci est le premier commandement pour les parents. Deuxième commandement, tu dois veiller à avoir un bon contact avec tes enfants, plutôt que des lois strictes. Vous comprenez ma pensée? Tu dois avoir un bon contact avec tes enfants plutôt que des lois strictes entre vous. Et là, c'est une pensée aussi très, très importante. Que de parents ont établi des lois à la maison, mais ce sont des lois qui tuent l'enfant. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Le point important dans toute éducation, bien sûr, il y a des choses que l'enfant ne doit pas faire, on le doit le dire, c'est sûr. Mais le point important est celui-ci. À quoi ça sert d'établir des lois dans ta famille, avec tes enfants, si tu perds le contact avec tes enfants? Le but de l'éducation, voyez-vous, c'est de garder le contact avec ses enfants. C'est pas de dire, ah, ben voilà, bon ben, voilà, alors c'est comme ça ici. D'accord ou pas d'accord, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas éduquer, c'est une prison, ça. Ce n'est pas de l'éducation. Ce sont les règlements d'une prison. Mais ce n'est pas l'éducation dans la maison. Et que nos parents sont liés par leurs lois. Ils ont mis des lois sur leurs enfants. Je ne veux pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas dire la vérité quand il faut le dire. Il n'est pas question de cela. Mais vous pouvez dire les choses dans un autre esprit. Vous pouvez dire des choses merveilleuses, mais en braquant vos enfants. Le point important est de dire, écoute chérie, voilà, c'est comme ça ici. C'est comme ça à la maison. Et il faut d'ailleurs. L'enfant a besoin de se sentir discipliné. Il a besoin d'avoir des règles. Il en a besoin. C'est sa sécurité. Quand il sait qu'il ne peut pas dépasser une certaine limite, c'est important pour lui. C'est important parce qu'autrement, il sait plus ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est important. L'enfant doit avoir des règles. Mais ces règles ne doivent pas tuer votre communion et votre dialogue avec l'enfant. C'est ce qui se passe souvent, malheureusement. Si vous faites quelque chose, si vous avez établi des lois ou des principes chez vous qui ont brisé le dialogue avec vos enfants, alors il est temps de changer quelque chose. Parce que vous n'êtes pas en train de les éduquer, vous êtes en train de les éloigner loin du Seigneur. Pour cela, il faut de l'humilité. Ah oui. Il y a certains parents, non. Le papa faisait comme ça, la grand-maman faisait comme ça, chez nous c'est comme ça. Ils ne s'occupent pas si leurs enfants, s'ils ont un contact, s'ils sont heureux avec leurs enfants, si vraiment ils peuvent parler. Non, ça ne compte pas ça. C'est les lois qui comptent, mais pas la personne. Voyez-vous, on a mis les principes, les lois avant la personne. Et dans l'éducation, c'est d'abord l'éducation de la personne qu'on fait, n'est-ce pas vrai? Sinon, on considère l'enfant comme un objet. Et considérer l'enfant comme un objet, c'est le détruire littéralement. Des parents qui ont du succès dans l'éducation des enfants, leurs enfants, ce sont des parents qui ont réussi à garder ce contact dès le début jusqu'à la fin. C'est merveilleux cela. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas des histoires entre vous, pas du tout, il y en aura toujours. Ne pensez pas qu'il n'y en aura pas. Mais qu'au travers de tout cela, vous faites quelque chose de très important. Vous voulez garder le contact. Et dès que vous sentez qu'il y a comme une coupure avec votre enfant, s'il vous plaît, rétablissez tout de suite cela. Moi, je vois avec mes enfants, quand je dis une parole ou autre qui les bloque, il y a comme une souffrance en moi. Je dis, mais finalement, à quoi ça sert? Tu as dit, soi-disant, quelque chose de bien, mais En disant du bien, en disant quelque chose de bien, tu as fait mal à l'enfant. L'enfant a été bloqué. Et je sens comme une coupure. Alors je dois dire, c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. Les parents doivent veiller au contact avec l'enfant. Il ne faut pas que ça traîne, sinon le fossé augmente de jour en jour. Et tout de suite, je vais le voir ou la voir et dire, écoute mon petit, allez, allez. Parce que quand je vois qu'elle me boude dans son petit coin, ça ne va pas. Je n'ai pas éduqué mon enfant. Le but de l'éducation n'est pas de faire de nos enfants des boudeurs ou des bouddhistes. Ah oui, mais il y en a même qui en font des bouddhistes. C'est une drôle d'éducation, ça. Il faut un peu de l'éradication là-dedans. Écoute, je t'ai dit ça, mais... Allez, je te l'ai dit dans un mauvais esprit. Je t'ai fait de la peine, hein. Allez, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est pas comme ça que j'aurais dû te dire la chose. Et automatiquement, il y a le pardon et le rétablissement de la communion. Et ça y est, c'est gagné, c'est gagné. Si les parents maintiennent ce contact avec leur enfant, ils l'éduquent. Et ces enfants seront des enfants équilibrés, moralement et spirituellement, émotionnellement aussi. Alors, veillez, veillons à cela. Cela ne sert à rien de dire, voilà, c'est comme ça ici. Et puis tu fais fuir tes enfants. Non, garde le contact. Et si tu sens que tu as perdu ce contact, alors tu dois faire le premier pas. N'attends pas que l'enfant fasse le premier pas. C'est le père, c'est les parents qui doivent faire le premier pas. Et dire, écoute, là, je n'aurais pas dû dire la chose comme cela. Rétablissez le contact. Et des miracles s'opéreront dans vos relations. Alléluia. Troisième commandement, tu dois les instruire dans les voies du Seigneur. Et j'ai comme verset ici, Proverbe 22:6, ce que je vous ai donné. Maintenant, il y a là une pensée très importante. Tu dois, donc les parents, avez-vous remarqué dans les deux passages qu'on a lus, Père, n'irritez pas vos enfants. Donc la première responsabilité sur le père, la maman aussi est là pour l'aider. Mais ce que je veux dire est ceci, c'est que ce sont les parents qui ont devant Dieu la responsabilité d'enseigner et d'éduquer leurs enfants dans le Seigneur. Vous croyez que ça se fait? Bien souvent, les parents confient l'éducation de leurs enfants à l'Église, au pasteur, un responsable spirituel. On les confie à l'Église. L'Église a pour but de compléter l'éducation qui se fait à la maison. Mais le premier responsable de l'éducation des enfants n'est pas le pasteur. Le premier responsable de l'éducation des enfants, c'est vous, c'est le père, c'est la mère. Combien de parents rouspètent? Qu'est-ce que c'est que ce pasteur? Qu'est-ce que c'est que ce responsable-là? Il ne sait pas s'y prendre avec les jeunes. Il ne sait pas s'y prendre. Ah bon? Il ne sait pas s'y prendre? Et toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que c'est lui qui doit éduquer tes enfants? C'est toi qui dois le faire. L'éducation des enfants est la responsabilité des parents. Ça commence par les parents. C'est pourquoi un jour, Dieu redemandera des comptes aux parents. Nous n'avons pas le droit de nous décharger sur qui que ce soit. Les autres peuvent nous aider, l'Église peut nous aider, une organisation peut nous aider dans l'éducation, mais la première responsabilité nous revient. Quatrième commandement, tu dois apprendre à écouter tes enfants. Tu dois apprendre à les écouter. Là encore, combien de jeunes disent très souvent, mon père, ma mère ne m'écoute pas. C'est le refrain qui revient constamment dans la bouche des jeunes. On ne m'écoute pas. Je parle, on ne m'écoute pas. Savez-vous pourquoi vos enfants ne vous écoutent pas ou vous les jeunes ne vous écoutent plus, parents? Parce que vous ne les avez pas écoutés. On récolte ce que l'on sème. Et là, il y a une vérité très importante. Les parents doivent apprendre à écoutez, écoutez. Car pour un enfant, écouter, c'est être aimé. Ceci est très important. Quand vous prenez le temps d'écouter votre enfant, vous lui montrez que vous l'aimez. Car qui prend le temps d'écouter les enfants? Qui? Si les parents ne le font pas, qui va le faire? Ce sera le groupe du quartier. Les blousons noirs ou blousons gris. Là-bas, on les écoute. Et si on les écoute là-bas, ils iront là-bas. Ah oui? Et on est étonné. Comment? Ils vont là-bas. Pourquoi ils vont là-bas? Ah ben là-bas, on l'écoute au moins. Mais à la maison, pas le temps. Pas le temps. Dis donc, papa, tu peux m'aider? Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Tu peux me donner un petit coup de main? Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Ah bon? T'as pas le temps pour tes enfants? T'as pas le temps de les écouter? Eh bien, un jour, ils ne t'écouteront pas. Le jour où tu auras besoin d'eux, ils ne seront plus là non plus. Et c'est la triste vérité que nous constatons aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi une telle rébellion de la part des jeunes? Écouter, c'est être aimé pour un enfant. Écouter, il y a une deuxième vérité dans le fait d'écouter. C'est reconnaître la valeur de quelqu'un, la dignité de quelqu'un. Quand vous écoutez quelqu'un, cette personne se sent rehaussée dans sa dignité. C'est vrai, c'est formidable. Quand quelqu'un vous écoute réellement, je dis bien écoute réellement, cette personne se sent honorée, n'est-ce pas vrai? Et ça vous fait un bien énorme. Quand enfin quelqu'un vous écoute réellement, réellement, la personne se sent honorée. Écoutez, écoutez vos enfants. Ils se sentiront honorés. Et ils vous honoreront aussi plus tard. Alléluia. Tu dois apprendre, c'est tout un art. Écouter est un art. C'est un art. C'est un art. Il faut se faire violence. Il faut savoir renoncer à son égoïsme. Pourquoi on n'écoute pas? Parce qu'on est imbu de soi-même. On ne pense qu'à nos problèmes. Et voilà pourquoi nous n'en sortons pas. Voyons le cinquième commandement maintenant. Tu dois passer du temps avec eux. Là encore, le reproche constant que les jeunes, les enfants ont, c'est que les parents n'ont pas de temps pour eux. Et pour un enfant, être aimé, c'est passer du temps avec ses parents. La preuve que vous aimez votre enfant, c'est que vous prenez du temps avec lui. Un jour, je lisais ce témoignage d'un prédicateur qui arrivait vers la fin de sa vie, et il disait ceci. Je regrette beaucoup de choses dans ma vie même de prédicateur. Mais il y a une chose que je ferais si je devais recommencer ma vie. Je passerais beaucoup plus de temps avec mes enfants, simplement pour m'amuser avec eux. Car ce que les enfants retiennent, ce sont les moments où le papa, la maman s'amusent avec eux. Un enfant est plein d'humour, un enfant aime jouer, n'est-ce pas vrai? Est-ce qu'il retient finalement, ce sont ces moments-là où les parents jouent avec eux? Passez plus de temps avec vos enfants. Là, je me prêche aussi à moi-même. Tu dois passer du temps avec eux. C'est la preuve de ton amour. Il y a là des décisions à prendre. Sixième commandement. Tu dois reconnaître tes propres fautes. Dans l'éducation des enfants, nous devons réaliser aussi que nous ne sommes pas parfaits. Savez-vous qu'il y a des parents qui n'ont jamais demandé pardon à leurs enfants? Savez-vous que ça existe? Si vous êtes un père ou une mère qui n'a jamais demandé pardon à votre enfant, alors laissez-moi vous dire, aux yeux de Dieu, vous êtes un échec. Cette parole est peut-être difficile, mais aux yeux de Dieu, vous êtes un échec. La chose la plus importante que votre enfant a, dont votre enfant a besoin, c'est votre exemple, et surtout dans le pardon. Car comment voulez-vous que votre enfant vienne vous demander pardon quand vous, vous ne l'avez jamais fait une seule fois? Et là se révèle l'hypocrisie des parents. Alors, tu ne viens pas demander pardon? On demande pardon. Viens demander pardon. Et l'enfant a beaucoup de peine à demander pardon. Pourquoi? Parce que vous ne lui avez jamais montré le chemin. Jamais vous avez donné l'exemple dans ce domaine-là. C'est autrement dit un hypocrite qui lui donne des exemples, qui lui donne des ordres. Et vous savez, les ordres d'un hypocrite ne sont pas obéis facilement. Et voilà pourquoi, bien souvent, on n'est pas obéi. Les enfants ou les jeunes ne demandent pas des parents parfaits. Et il y a beaucoup de parents qui sont perfectionnistes. Il y a les perfectionnistes, vous savez ce que c'est? Ce sont les gens qui, les parents qui ne sont jamais satisfaits avec leurs enfants. Jamais, ils sont exigeants au plus haut point. L'enfant ne fait jamais assez bien. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et en disant cela, naturellement, eux se prennent pour des gens. Comme les jeunes disent aussi, c'est des super, super. Eux, ils sont irréprochables. Mais alors, à l'égard de l'enfant, ils sont intraitables. Une telle attitude fait beaucoup de mal à l'enfant. Tu dois apprendre à reconnaître tes fautes. Et dire à l'enfant, écoute, mon petit, le papa s'est trompé là. Il a fait une faute. Il te demande humblement pardon. Pardonne-moi. Certains parents ne demandent jamais pardon à leurs enfants. Vous ne savez pas pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leur autorité. S'il y a des parents ici qui n'ont jamais demandé pardon à leurs enfants, vous n'avez pas perdu votre autorité. Vous l'avez déjà perdue. Vous n'avez pas à perdre votre autorité. Si vous n'avez jamais demandé pardon, vous l'avez déjà perdue. Devant vos enfants, vous l'avez déjà perdu. Car des parents qui ne savent pas demander pardon ont, devant leurs enfants, perdu toute autorité. Voilà pourquoi les paroles ne portent plus. Voilà pourquoi ce qu'on dit n'a pas d'effet. Tu dois d'abord reconnaître tes propres fautes et l'enfant vous respectera davantage. Le croyez-vous? Car les enfants ne demandent pas des parents parfaits, mais des parents honnêtes, sincères. Sincères. C'est tout ce qu'il lui faut. Il sera satisfait. Il verra que finalement, eh bien, les parents sont comme lui. Et qu'ils ont comme lui besoin de la grâce de Dieu et du pardon de Dieu. Septième commandement, tu dois savoir rire avec eux et toujours avoir un bon sens de l'humour. Alléluia. Savoir rire un peu avec ses enfants. Savez-vous qu'il y en a qui sont terriblement sérieux? Jamais, jamais, ils ne sourient vraiment avec leurs enfants. Jamais de sourire, toujours une mine. 6 heures. Jamais de détente, jamais de moment d'humour. Savez-vous que Dieu est un Dieu d'humour? Le croyez-vous? Dieu est un Dieu plein d'humour. Et je crois que lorsque un homme est rempli du Saint-Esprit, il est plein d'humour aussi. Alléluia. Et des parents qui sont pleins du Saint-Esprit aussi seront pleins d'humour à l'égard de leurs enfants. Ils savent rire un bon coup. Riez un bon coup. Ne vous prenez pas trop au sérieux et on vous prendra au sérieux. Ne vous prenez pas vous-même trop au sérieux. Détendez-vous. Riez, ayez de l'humour. C'est important. Alléluia. Les parents doivent les enfants doivent se relaxer dans la présence du Seigneur, des parents. Savez-vous pourquoi les enfants étaient attirés par le Seigneur? Je crois qu'il y avait quelque chose de merveilleux avec le Seigneur, n'est-ce pas? En général, les enfants n'approchent jamais des gens qui boudent ou qui font la tête. Avez-vous remarqué cela? Les enfants sont attirés par quelqu'un qui les aime. Quand ils se sentent aimés, ils viennent tout de suite. Ils viennent là près de vous. Et puis alors, ça y est, vous commencez. Ils se sentent attirés par quelqu'un qui les aime. Et Jésus était ainsi. Et pourquoi, c'est pourquoi les enfants venaient. Il était plein d'humour, je suis sûr. Et les enfants se sentaient libres avec lui. Il les prenait dans les bras, il les bénissait. Il riait avec eux. Il riait, le Seigneur Jésus qui riait. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait sur lui une huile de joie. Alléluia. Une huile de joie. Certaines personnes pensent que Jésus n'a jamais ri. En tout cas, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Non. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui est allé aux noces de Cana. C'est lui qui s'est réjoui avec des parents. Il s'est réjoui avec eux parce qu'il avait un cœur de père. Il était plein d'humour, le Seigneur. Des parents aussi doivent être pleins d'humour. Riez des bons coups avec vos enfants. Riez de bons coups. Et vous verrez que ça leur marquera profondément et ils vous en seront reconnaissants. Huitième commandement, tu dois traiter tes enfants d'une manière impartiale. Là, certains parents ont fait des dégâts terribles. Ils ont leur chouchou dans la maison. Ils aiment plus la fille que le garçon. Parce que la fille est peut-être plus mignonne. Le garçon, elle est mignonne et puis elle est intelligente. Alors les parents élèvent cet enfant et l'autre qui a de la peine à apprendre. Papa, je comprends pas. Et les parents font sentir que, regarde ta sœur. Combien de fois on fait ça? Regarde ta sœur, regarde, elle est beaucoup plus intelligente que toi. Il n'y a rien de tel pour faire un mal terrible dans le cœur de votre enfant. Ne comparez jamais votre enfant à un autre. Jamais, jamais. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Chacun a son caractère personnel. Chacun est unique devant Dieu. Amen. Chacun a de la valeur aux yeux de Dieu. Dites-le. Et vous savez que beaucoup de personnes, même à 30, 40, 50, 60 ans, sont encore poursuivies par cette pensée. Encore, ils sont littéralement labourés dans le fond de leur être. Ils ne se sentent pas aimés. Ils se sentent rejetés. Pourquoi? Parce qu'à la maison, ils ont toujours entendu. Toi, tu ne vaux rien du tout. Ton frère est quelque chose. Toi, tu es incapable. Tu es un incapable. Tu ne feras jamais rien dans ta vie. Ton frère, ta sœur, lui au moins, c'est quelqu'un. Tu devrais prendre exemple sur lui. De telles paroles détruisent la personnalité d'un enfant. Les parents, bien souvent, font cela dans un bon esprit. Ils pensent bien faire en faisant cela. Mais c'est exactement l'effet contraire. Dites-leur qu'ils ont du prix à vos yeux. Un jour, j'avais lu cette histoire des enfants qui avaient le sentiment qu'ils étaient, chacun pour leur part, les chouchous dans la maison. Mais chacun pour leur part. Le papa avait agi de telle sorte qu'il a fait croire, il a fait sentir à chacun qu'ils étaient uniques, qu'ils étaient finalement tous des chouchous. Alors chacun se sentait un chouchou, mais personne n'était lésé parce que l'autre c'était la même chose. Et je trouve que des parents qui ont une telle attitude, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Faites sentir à votre enfant qu'il est unique. Qu'il est unique. Qu'il a de la valeur à vos yeux. Faites-le aux autres. Ne le diminuez jamais en quoi que ce soit. Car aux yeux de Dieu, nous avons tous du prix, n'est-ce pas? Aucun d'entre nous ici ne peut dire, moi, je n'ai pas de valeur aux yeux de Dieu. Tous, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. La preuve, c'est qu'il est venu mourir sur la croix pour nous. La preuve que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, c'est qu'il est mort pour toi. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve qu'il t'aime, c'est qu'il est mort pour toi. La preuve qu'il aime tes enfants, c'est qu'il est mort pour eux aussi. Il est mort pour tous les hommes. Nous devons aimer nos enfants comme nous sommes aimés de notre Seigneur, d'une manière impartiale, sans aucune différence, sans aucune comparaison. Aimez-les tels qu'ils sont. Aimez-les quand ils sont gentils et quand ils ne sont pas gentils. Aimez-les quand ils ont un zéro à l'école et quand ils ont un 20, aimez-les quand même. Quand ils étaient petits, je disais aux miens, je t'aime gentil ou pas gentil. Mais maintenant, comme ils grandissent, il faut que je change un petit peu. Je leur dis maintenant, comme ils vont à l'école, je vous aime, même si vous avez un 0 ou un 20, je vous aime quand même. Alors, je ne sais pas quand ils seront plus grands ce que je dirais. Mais pour le moment, c'est un peu ce stade-là. Même si tu as des zéros, peu importe, le papa t'aime encore, la maman t'aime encore, on t'aime, on t'aime. Bien sûr, ne fais pas trop de zéros quand même. Non, fais pas trop. Mais tu sais que tu es un 0 ou un 20, tu ne diminues pas dans notre estime. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux du papa, aux yeux de la maman, tu as de la valeur. Le 0 ou le 20 n'influence pas le papa ou la maman. On t'aime tel que tu es. Voilà des paroles qui libèrent et transforment les zéros en 20. Amen. Voilà une telle attitude qui transforme les zéros en 20. Mais il y en a qui ont la spécialité de transformer les 20 en 0. Oui. Les 20 en 0. À force de diminuer un enfant, à force de l'humilier constamment. Oui. Il peut commencer par des vins. Il peut être très capable et avoir de grandes dispositions. Et combien il y en a, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de jeunes, d'enfants, des jeunes, qui ont une intelligence extraordinaire. Ils ont commencé avec des vins, mais il y a des zéros maintenant. Ils sont capables, mais ils ont été brisés intérieurement. Le mécanisme a été brisé à l'intérieur. On les a humiliés. Et c'est terrible. C'est terrible. Aime tes enfants tels qu'ils sont, sans aucune comparaison. Ne les compare plus. Aime-les tels qu'ils sont. Et tu verras le Seigneur faire des miracles. Gloire au Seigneur. Neuvième commandement, tu dois apprendre à discipliner tes enfants. Et Hébreux 12:6 nous dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Hébreux 12:6. Et Proverbe 13:24 nous dit ceci aussi. Proverbe 13:24, celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Tu dois apprendre à discipliner ton enfant. Dans la discipline, il y a deux attitudes importantes. Dans la discipline, bien souvent, les parents ne voient que le non. Tu ne dois pas faire ça. N'est-ce pas vrai? Alors, quand l'enfant fait quelque chose de mal, non, tu ne dois pas faire ça. Bon, c'est bien. Dans la discipline, il y a le non. Mais là, dans la discipline, il y a plus que le non. Il y a aussi le oui. Oui, tu as bien fait ceci et cela. Il y a le non à la mauvaise action et il y a le oui à la bonne action. Si vous appuyez trop sur le non, sans appuyer sur le oui, vous en faites un enfant déséquilibré, qui se culpabilise continuellement et qui n'aura jamais confiance en lui-même. Non, pour ta mauvaise action, c'est tout ce qu'il sait, c'est tout ce qu'il a entendu toute sa vie. Non, 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 mauvaise action, finalement, les mauvaises actions, ça veut dire mauvaise personne, mauvais enfant. Et c'est pourquoi des multitudes se suicident, et même parmi les jeunes. Pourquoi? Ben, parce que je suis un mauvais gars. Je suis mauvais, je suis mauvais. Discipliner, c'est dire non à la mauvaise action, mais c'est aussi dire oui à la bonne action. Et encourager, parce qu'on l'a lu tout à l'heure. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Un enfant se décourage facilement, c'est pourquoi il a besoin d'être encouragé. Par des oui, tu as bien fait. Par des oui, c'est cela mon fils, C'est bien, je suis fier de toi. Oui, continue. Oui, oui, il a besoin d'entendre cela. C'est important pour lui, pour prendre confiance en lui-même. Et s'il prend confiance en lui-même, alors il pourra partir dans la vie avec assurance et saura triompher des épreuves et des difficultés qui se trouveront sur son chemin. Ne l'oubliez pas, dans la discipline, il y a ces deux pensées très importantes. Et pour terminer, le 10e commandement, tu dois apprendre à leur faire confiance. Tu dois apprendre à leur faire confiance. À un moment donné, dans notre éducation des enfants, nous devons les remettre entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas vrai? Et dire désormais, Seigneur, moi j'ai fait ma part, mais je les remets entre tes mains. Mais cela, beaucoup de parents ne le font pas. Beaucoup de parents n'ont pas encore coupé le cordon ombilical. Savez-vous qu'il y a des jeunes qui sont mariés maintenant, et quand ils vont voir leurs parents, ils ont l'impression d'être comme des enfants. Ils ont l'impression que c'est toujours le petit enfant qui revient voir les parents. Pourquoi ? Parce que c'est les parents qui n'ont pas encore coupé le cordon ombilical. C'est encore mon petit. Ah bon, ton petit à quel âge ? Il a 55 ans. Ah, c'est un drôle de numéro, ton petit. Tu devrais au moins dire mon grand. C'est bien, mon petit. Dans la pensée des parents, l'enfant n'a pas grandi. Il est marié, il a des enfants qui se marient. Viens voir mon petit bébé, viens mon petit bébé. Ah, si tu les appelles encore des bébés, c'est toi qui es le bébé. C'est toi qui n'as pas grandi. Tu dois apprendre à leur faire confiance. À un moment donné, il faut savoir les remettre entre les mains du Seigneur. Ceci est important. Et cette confiance en eux est importante pour qu'ils puissent aussi prendre leurs décisions. De vrais parents ne sont pas ceux qui prennent toujours les décisions à la place de leurs enfants ou des jeunes, s'ils ont grandi. Ce sont des parents qui aident les jeunes à prendre des décisions. Mais pas à prendre des décisions à leur place. C'est pourquoi il y a des personnes âgées, 40, 50, 60 ans, ils ne savent pas prendre de décision. Ils ne savent pas encore prendre de décision. Pourquoi ? Parce que les parents ne les ont jamais aidés à prendre des décisions. Bon, c'est le petit bébé, vous comprenez comme c'est le petit bébé. Un petit bébé, est-ce qu'il peut prendre des décisions ? Non, c'est mon petit toujours. Alors, le petit, ben, lui, il n'a plus qu'à se taire, le petit. Il n'a plus qu'à prendre le biberon. Et obéir, c'est tout. Alors, à 40 ans, 50 ans, on est encore là, voilà. Oui, 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 ah, c'est comme ça que tu veux que je fasse, oui, oui, bon. Oui, 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 tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parents, vous pouvez faire beaucoup de mal à vos enfants. Vous en faites des enfants perpétuels. Un enfant, quand il grandit, il a besoin de faire ses expériences. Et c'est en prenant des décisions qu'il mûrira. Il a besoin de faire ses erreurs. Laissez-lui faire ses erreurs. Même si vous savez que c'est pas bien, mais laissez-le. Et bien souvent, un enfant ou un jeune fait des graves erreurs plus tard parce que tout petit, enfin, petit à petit, il n'a pas été instruit dans cette voie-là à prendre des décisions. Et le jour où il y a quelque chose qui vient sur lui, eh bien, il prend la mauvaise décision. Parce qu'il n'est pas préparé. Il n'est pas préparé. Vous ne l'avez pas préparé, petit à petit, petit à petit. Et tout à coup, on est terrible, les parents sont terribles. Soit on retient complètement l'enfant et on l'étouffe. Mon petit, mon petit, mon petit, mon petit. Soit c'est le contraire. On lui dit maintenant, va-t'en. C'est pas vrai? C'est exactement ça. Allez, loin. Mais on n'a pas préparé l'enfant. L'enfant s'en va. Oh, soi-disant, oui, on le laisse libre. Mais il ne sait pas prendre de décision. Et là, en général, la première décision qu'il prend, c'est une décision qu'il regrettera toute sa vie. Car elle peut lui coûter des choses des conséquences tragiques dans sa vie, n'est-ce pas vrai? Et cela, c'est de votre faute. Vous avez pris des décisions à sa place continuellement. Bien sûr, ça se fait graduellement, n'est-ce pas? Vous me comprenez bien. À un moment donné, les parents doivent avoir cette sagesse pour comprendre que l'enfant a besoin de prendre des petites décisions, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et lorsqu'il devra quitter la maison, l'enfant aura une certaine maturité qui lui permettra de faire face aux combats de la vie, aux tentations de la vie. Il faut le préparer. Et si l'enfant a reçu cette éducation, on te fait confiance, il agira avec plus d'assurance devant la tentation, devant les épreuves, devant les difficultés, il sera plus maître de lui-même. Il ne se laissera pas avoir facilement. Parce qu'on lui a dit qu'il était capable de prendre des décisions, qu'il était capable de devenir un bon père de famille, une bonne mère de famille, qu'il était capable de faire ce que Dieu lui demande et de vivre une vie épanouie, qu'il en est capable. Cela est important pour un enfant et pour un jeune. Alors, quand il a cette assurance qui vient des parents, la confiance en lui-même est là. Et il se dit, bon, mais maintenant, avec l'aide de Dieu, bien sûr, eh bien, je peux faire ce que Dieu me demande. Je peux faire face à la vie et glorifier Dieu dans ma vie et être un bon père de famille à mon tour ou une bonne mère de famille aussi à mon tour. Alléluia! Que le Seigneur ainsi bénisse sa parole. Il est encore temps de changer. Ne vous découragez pas en entendant ces paroles en disant « Moi, eh bien, dans les 10 domaines, ça a été la catastrophe. » Et ne vous découragez pas en disant « Bah, ça y est, bon, alors il n'y a plus d'espoir pour moi. » Si, il y a toujours un espoir. Si tu veux revenir, il y a un espoir. Mais ne prends pas l'autre attitude aussi en disant « Oh, moi, il n'y a rien à revoir, rien à redire. » Si tu crois cela, tu es un menteur et Dieu ne pourra pas te changer. Tu souffriras, tes enfants souffriront et le Seigneur ne pourra pas réellement bénir ton foyer. Sois sincère, sois droit devant tes enfants et Dieu te bénira. Respecte tes enfants et ils te respecteront. Honore-les et ils t'honoreront. Donne le bon exemple. Et ils suivront ton exemple, tôt ou tard. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Cela veut dire qu'il peut avoir des difficultés. Il en aura certainement, mais quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce qu'il a vu en toi reste gravé dans son cœur. C'est une semence incorruptible qui poussera et qui portera un fruit. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et bénisse chaque parent au milieu de nous. Courbons-nous dans la prière quelques instants, s'il vous plaît. Alléluia. Et s'il y a des parents au milieu de nous qui réalisent leurs échecs dans certains domaines, le Seigneur est là pour vous aider. Prenez les bonnes décisions cet après-midi et dites, « Ô Seigneur Jésus, je veux changer. Je veux, Seigneur, faire ce qui te plaît désormais. » Et glorifier ton nom dans ma vie. Me voici pour faire ta volonté et non la mienne. Alléluia. Merci Seigneur. Prends nos vies Seigneur Jésus. Gloire à ton beau nom. Merci pour l'œuvre que tu opères en nous. Avant d'opérer dans le cœur de nos enfants, Seigneur, tu veux opérer dans le cœur des parents. Et c'est au travers d'eux que tu bénis les enfants. Nous voici, Seigneur. Oui, comme nous l'avons entendu, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Non pas ma maison et moi, mais moi et ma maison. Josué a donné l'exemple, moi et ma maison. Si nous donnons l'exemple, même si nous ne sommes pas parfaits, le Seigneur bénira et il vous utilisera. Alléluia. Et la bénédiction du Seigneur sera dans votre foyer. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen, Seigneur. Restons dans la prière quelques instants. Alléluia.
Le Seigneur m'a montré que il y a des couples qui ont besoin d'être réunis au milieu de nous afin d'être un meilleur exemple pour leur famille, pour leurs enfants. Et le Seigneur appelle en particulier cette couple au milieu de nous. Unité spirituelle entre eux, afin qu'ils soient un devant Dieu et aussi devant leurs enfants, et que le Seigneur puisse répondre à leurs prières, aux prières des élèves de leur cœur en faveur de leurs enfants. Ils ont besoin de cette unité, ils ont besoin d'être un devant le Seigneur. Et les enfants, automatiquement, suivront leur exemple, automatiquement seront bénis, automatiquement suivront le bon chemin, si eux sont un, comme le Seigneur le demande. Et comme le Seigneur les voit d'ailleurs, il les voit un, ils sont un devant lui. Alléluia, merci Seigneur.
Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons donc passer du moment dans la prière.